Europe 1.
10h, 11h.
Le grand rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews.
Stéphane Dupont, Mathieu Bock-Côté,
Sonia Mabrouk.
Bonjour à tous et bienvenue à vous au grand rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos. Deux invités, deux élus, deux visions différentes en ce dimanche. À partir de 10h30, le député RN de la Somme, Jean-Philippe Tanguy, il dénonce les mesurettes de Gabriel Attal pour défendre les paysans et s'insurge d'un double discours à la fois à Paris et à Bruxelles. Mais tout d'abord, il est député Renaissance des Yvelines. Il est un proche d'Emmanuel Macron, ancien maire de Poissy. Bonjour à vous, Carl Olive.
Bonjour.
Et merci de votre présence. Vous connaissez bien les enjeux et les défis de la paysannerie française. Vous soutenez l'action de l'exécutif qui fait face à une crise désormais qui s'installe. Pour vous interroger sur tous ces sujets, je suis entourée de mes camarades. Stéphane Dupont des Échos, bonjour à vous Stéphane.
Bonjour.
Et Mathieu Bock-Côté, bien sûr. Bonjour à vous Mathieu.
Bonjour.
Carl Olive, la colère des agriculteurs ne retombe pas. Gabriel Attal sera tout à l'heure dans une exploitation bovine en Indre-et-Loire, dans un village, mais rien n'y fait. La FNSEA et les jeunes agriculteurs promettent un siège de la capitale pour une durée indéterminée à partir de demain à 14h, et également le blocage de Rungis. Comment l'élu que vous êtes, le député, l'ancien maire, juge ces actions et ce regain de tension aujourd'hui ?
J'ai envie de dire que Gabriel Attal, qui a été nommé il y a 15 jours, on est en période d'épiphanie, c'est une fève tous les jours dans la galette. La première chose, c'est que souhaitent les agriculteurs en France. On peut peut-être rappeler qu'il y a 150 agricultures différentes en France. Ils souhaitent être payés au juste prix. Et je le dis en connaissance de cause, puisque je suis issu d'une famille fermière dans le Finistère Sud, à Spézet. Ils souhaitent être finalement payés au juste prix. Ils souhaitent qu'il y ait de la réciprocité entre les droits et les devoirs. Que les règles soient les mêmes en France et en Europe. Et ils souhaitent surtout, pardonnez-moi l'expression, qu'on arrête de les emmerder avec les normes qui sont comme des bottins.
Et alors, est-ce que ces points, cet argumentaire est bien compris par l'exécutif ? Est-ce que, selon vous, le gouvernement mesure l'ampleur de la crise ? Parce que là, imaginez-vous Paris ou d'autres villes, mais bloquées pour plusieurs jours. Quel spectacle cela va-t-il donner ?
D'abord, moi, je veux aussi balayer devant notre porte. Il est temps, et ce n'est pas depuis hier que je le réclame, vous le savez, Sonia Mabrouk, il est temps de changer de logiciel dans ce pays, d'aller sur le terrain. Je le disais l'été dernier dans une tribune, allons sentir le cul des vaches, allons prendre la température du terrain. Et force est de constater que, depuis 15 jours, c'est ce que Gabriel Attal fait.
Ça ne marche pas.
Bien sûr que ça faut.
Ben non, ça ne marche pas, puisque le blocage continue, le mouvement continue.
Non, mais monsieur Dupont, vous savez, ce n'est pas un claquement de doigts. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui date d'hier, ça ne date pas de 10 ans, ça fait 20 ans. Les agriculteurs, ils sont au bout du rouleau. Il faut arrêter de mettre le mot défiance avant le mot confiance dans ce pays, dans ce monde agricole, comme
allez les voir,
sur d'autres
c'est bien,
sujets.
Mais manifestement, les mesures qui ont été annoncées vendredi ne satisfont pas une grande
Monsieur
partie.
Monsieur Dupont, excusez-moi, ça fait 48 heures que les mesures ont été annoncées. Il y a des mesures, malgré tout, qui vont dans le bon sens. Et je vais vous donner un exemple, je vais essayer d'être très clair. J'ai eu le préfet de la Nièvre encore ce matin, Michael Galli, qui m'expliquait que les mesures annoncées vendredi étaient exactement celles que lui-même avait eues en retour de la part des agriculteurs qu'il avait rencontrés il y a 2 et 3 semaines. Donc ça va dans le bon sens. Tout n'est pas parfait. Et vous allez voir que le Premier ministre va annoncer un certain nombre de mesures, certainement aujourd'hui, demain lors de la politique générale. Le ministre Marc Fesneau continue d'être à la rencontre. Tout n'est pas parfait. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts.
Mathieu Bock-Côté.
Alors, j'entends, vous dites votre solidarité des agriculteurs. Vous dites que des mesures viennent. Mais pour l'instant, l'enjeu, vous me pardonnerez de le rappeler, c'est la possibilité que Paris soit assiégé. Ce sont les termes, pendant plusieurs jours, de manière, pour une période de temps déterminée. Pour vous, un tel siège serait légitime ?
Mais ce ne sont pas des voyous, les agriculteurs. Ce sont des gens responsables. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre ? Vous voyez les agriculteurs, les tracteurs défiler, aller, comme ce fut un temps avec les Black Blocs, là, défoncer des vrites, etc. C'est absolument pas
Donc qu'est-ce que vous entendez alors par un siège responsable de Paris ?
Je dis simplement qu'il faut prendre la mesure de la situation et c'est ce qui est fait. Il faut encore une fois qu'on arrête, je vais vous donner des exemples précis, d'emmerder les agriculteurs. Un exemple, la taille des haies. La famille Gousseau, qui est agriculteur aux Alluets-le-Roi dans ma circonscription, m'expliquait, on n'ose même plus planter un arbre. Vous connaissez le jeu des 7 familles. Il y a 14 réglementations, donc c'est 2 fois le jeu des 7 familles, avec le code de l'urbanisme, le code du patrimoine, le code de l'environnement. Est-ce qu'on peut faire confiance dans ce pays avant d'être systématiquement en présomption de culpabilité ? C'est ça qu'attendent notamment les agriculteurs.
J'entends ce que vous dites, vous parlez sur la question de fond, mais là il y a un enjeu politique qui n'est pas un détail, à moins que vous pensiez que ce soit le cas. Plusieurs disent, nous allons assiéger Paris. Vous me dites que ce ne sont pas des black blocs. Très bien. Je vous pose la question, qu'est-ce qu'un siège responsable? Qu'est-ce que ça veut dire un siège qui serait tolérable pour vous?
Je dis simplement qu'il faut respecter effectivement ce qui se passe, parce qu'encore une fois, le monde agricole est au bout du rouleau. On a besoin de notre agriculture en France, et c'est bien de le rappeler avant qu'effectivement il y ait des circonstances atténuantes. Pour être très clair par rapport à ça, après, il faut faire preuve de responsabilité. J'entends effectivement le fait d'aller sur Rungis, c'est 30% de la distribution dans les commerces et dans les restaurations. Il faut être vigilant, et je pense qu'il faut aussi que chacun... d'une autre, des groupements politiques d'ailleurs, comme du côté du monde agricole, que chacun soit responsable comme c'est le cas actuellement.
On entend votre appel à la responsabilité, c'est le cas actuellement. Qu'est-ce que vous pensez, Carl Olive, de ce, et on va arriver sur le fond des mesures hein, et des doléances des agriculteurs, à gauche qui dénonce un deux poids, deux mesures après la prise de parole du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui a dit il y a des coups de sang légitimes et je ne vais pas envoyer en gros les CRS et les forces de l'ordre. Est-ce que vous dites oui, on ne peut pas envoyer eh bien, ces forces de l'ordre face à des agriculteurs qui travaillent, comme vous le dites, et qui, depuis des années, en fait, poussent ce coup de gueule?
Moi, je veux juste te dire que la gauche, c'est formidable parce qu'elle est toujours dans les commentaires. Ils ont une culture qui est magnifique, c'est la culture du yaka faucon. À ça, pour commenter, ils sont là. La gauche, l'extrême gauche, ils sont toujours là pour bien commenter. Mais quand il s'agit de passer aux travaux pratiques, ils sont bien plus absents. Moi, j'aimerais qu'on fasse aussi preuve de responsabilité à cet endroit-là. Pourquoi ?
Ce sont eux les irresponsables.
Non, je ne dis pas que ce sont les irresponsables. Parce qu'on est tous, encore une fois... moi, je ne cherche pas des responsabilités des uns et des autres. On est tous, et je le dis, on balaye devant notre porte, y compris sur la majorité présidentielle. Je vais juste terminer, M. Dupont, s'il vous plaît. Je dis qu'il faut aussi arrêter. On parle, par exemple, du bio. Avec la gauche et l'extrême gauche et ces écolos qui se prennent pour des cow-boys, qui veulent systématiquement empiler des normes supplémentaires. Ben, formidable. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, le prix de la tomate en Espagne est deux fois plus important ou presque que celui de la France. Aujourd'hui, vous avez des agriculteurs qui n'osent même plus avoir le label bio. Pourquoi ? Parce que c'est des emmerdes à la clé. Il faut avoir des normes qui vont s'empiler. Et derrière, vous croyez que ce sont...
Carl Olive, alors pourquoi on a tellement attendu ? Là, on voit Gabriel Attal avec une botte de foin qui énonce ses mesures. Tout à l'heure, il sera dans ce village. Vous aviez alerté au mois d'août dans une tribune au JDD. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas anticipé cette crise alors qu'on voyait que tout cela s'aimait en Europe ?
D'abord, je pense qu'il faut qu'on soit écouté en stéréo et pas en mono, y compris dans la verticalité du pouvoir, premièrement. Deuxièmement, il faut qu'on arrête avec tous cette technocratie qui veut nous inventer la machine à courber les bananes, d'être un tout petit peu plus près du terrain. Vous voyez ce que fait Gabriel Attal ? Lui vient sentir le cul des vaches, là. Lui vient écouter.
Ça veut dire que sa prédécesseur ne le faisait pas assez.
Je ne dis pas ça, on est tous responsables, M. Dupont. Ça fait 7 ans que j'explique au président de la République qu'il y a eu les gilets jaunes, qu'a fait le président de la République. Il est derrière allé faire le grand débat national, le Tour de France. Il continue les séquences.
Parce que c'est la vérité du terrain. C'est une critique en creux de l'exercice du pouvoir depuis 2017 que vous êtes en train de nous faire d'un pouvoir qui est déconnecté,
Monsieur
qui
Dupont,
est technocratique.
Mais M. Dupont, pas depuis 2017, depuis 20 ans. Vous pensez que la crise agricole, elle date depuis avant-hier? Mais ça fait 20 ans que ça dure. Et on pourrait prendre le sujet de l'immigration, on pourrait prendre le sujet des retraites. À un moment donné, il ne faut pas fuir ses responsabilités. Oui, il faut aller en prendre plein la figure sur le terrain. Et c'est ce qui se passe. Et ça fonctionne. Et puis s'inspirer un peu de ce que font les maires. Vous voyez, les maires, ce sont les personnes les plus plébiscitées de ce pays. Ils ne sont pas écoutés ou peu écoutés. Il est temps que ça change.
Alors, Carl Olive, pour être très concrète, puisque le Gabriel Attal, on va suivre ce déplacement, va arriver dans quelques instants, on va voir ces images. Il est attendu sur place dans cette exploitation bovine en Indre-et-Loire. C'est le village de Chissot, c'est 500 âmes. S'il y avait une mesure à annoncer pour vous, l'élu, l'ancien maire, le député, quelle serait-elle ? Quelle mesure aujourd'hui est de nature à apaiser cette colère ? Et puis on passera au cadre européen dans quelques instants.
Que le monde agricole soit payé au juste prix. Je reprends cet exemple. Un litre de lait produit à Spézet, Finistère Sud, 49 centimes. Revendu, 42 centimes. Dans les rayons de marché, la vente du litre au lait, à peu près, 1,20 €. Mais vous ne pouvez pas vivre à crédit comme ça toute la vie. Avant même d'avoir commencé la partie, vous savez que vous l'avez déjà perdu. Les agriculteurs en France ne réclament pas d'être mieux traités ou moins bien traités. Ils veulent être traités normalement, avec des règles qui soient les mêmes pour tout le monde. Et là, c'est vrai que nous, il faut qu'on se serre un peu les coudes un peu plus et qu'on ne s'affranchisse pas des règles et qu'on ne soit pas... Bruno Le Maire, à juste titre, a fait une proposition avec les acteurs économiques, dans la suggestion... puis derrière d'être dans la prévention. Aujourd'hui, il faut être eh bien dans la punition de ces deux. Mais oui, de ces industriels.
Dans la punition de ces industriels, il faut passer à la vitesse supérieure.
Mais bien sûr qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Évidemment. Bien sûr qu'on a trop tardé. On a trop tardé parce qu'on a été dans un contrat gagnant-gagnant. On a été dans un pacte de confiance. Et certains n'ont pas joué le jeu. Je pourrais parler aussi, non pas des super profits, mais des super profiteurs.
Des super profiteurs. Vous pouvez les citer.
Non, mais.
Les industries. Non, mais je sais qu'il ne s'agit pas de les pointer du doigt, mais enfin, si vous dites chacun doit balayer.
Je pense que dans ce pays.
Qui doit le plus balayer aujourd'hui, si je
Sonia Mabrouk, dans ce pays, où on est capable de faire un contrôle quasiment tous les ans ou les ans et demi sur les 230 000 fermes. On doit être quand même capable de faire quelques contrôles pour les 6 centrales d'achat qui existent dans ce pays. Ça ne va pas être compliqué. Mais ce n'est pas justement de jouer les voyous. C'est simplement de dire la confiance n'exclut pas le contrôle.
Alors, vous avez évoqué une mesure payée au juste prix. Vous avez aussi évoqué l'empilement normatif. C'est imaginable à court terme d'engager une dynamique de réduction normative pour redonner de l'oxygène aux agriculteurs?
C'est marrant ce que vous me dites, monsieur, parce que quelqu'un m'a dit la complexité de la simplification. Non mais ça va être compliqué de simplifier, mais il n'y a rien de compliqué du tout. Il y a un choc de simplification qui va durer.
Si c'était si simple, ça se ferait quand même.
Non mais là, vous avez... Carl Olive.
Oui, alors moi je veux bien qu'on se donne rendez-vous dans un mois, parce que Gabriel Attal, là, a décidé pendant ce mois-ci, avec les préfets et les remontées de terrain, d'être dans la simplification. Et on va avoir un choc de simplification qui va se mettre en place. Et on sera jugé sur les résultats. On sera jugé sur les résultats. Mais enfin, excusez-moi, encore une fois, c'est pas un magicien, Gabriel Attal. En revanche, il retrousse les manches, il va sur le terrain, il va écouter, il va s'en prendre comme les maires. Il va être à portée d'engueulade, comme le dit le président Larcher. Et je pense que ça va nous faire tous du bien. Puis j'appelle aussi les collègues ministres, j'appelle les collègues députés, j'appelle les collègues élus, pareil, de se retrousser les manches. Ça fait du bien de sentir qu'on n'est pas tout seul de temps en temps.
C'est intéressant. Lorsqu'on n'est pas champion olympique. Il faut monter au front auprès de ce Premier ministre que l'on voit ici à l'image en direct, en déplacement dans cette exploitation bovine en Indre-et-Loire, dans ce village de Chissot. On écoutera dans quelques instants les échanges. Est-ce que tout cela peut intervenir sans rien toucher au cadre européen? Carl Olive, on va en parler en détail. Vous dites que Gabriel Attal n'est pas un magicien, mais elle est où la baguette magique? Est-ce qu'elle n'est pas à Bruxelles aujourd'hui?
Bruxelles a aussi sa part de responsabilité et on a aussi notre part de responsabilité par rapport à ce que veut nous infuser, je dirais l'Europe. Mais pour autant, oui, moi je suis favorable à la politique agricole commune. On bénéficie de 7,5 milliards ou 9 milliards d'octroi de la PAC, c'est le plus important.
Effectivement, pardonnez-moi, c'est ce qu'a dit le Premier ministre. Il a dit sortir de l'Europe, c'est vous priver, en parlant aux agriculteurs, de 9 milliards d'euros par an. Vous reprenez exactement ce discours ?
Non, ça, ce sont des faits. Je dis simplement que se priver de l'Europe, c'est derrière aussi se priver d'exportation. Lorsque la filière bovine représente 35%, la filière laitière représente 55%.
Le problème, ce n'est pas l'Europe.
Ben c'est un des sujets, l'Europe, monsieur Dupont. C'est un des sujets, notamment par rapport aux achères, où on vient imposer aux agriculteurs 4% de leur surface totale, alors qu'on pourrait éventuellement s'en priver. Je vous donne un autre exemple, soyons concrets, sur l'obligation de déclaration des prairies, des retournements de prairies, qui ont plus de 5 années d'existence. Anti-économique, anti-écologique. Il faudrait peut-être un peu de simplification.
On dirait que vous êtes en train de dire, et peut-être à raison, il faut dire merci à l'Europe pour la PAC, mais la France est un grand contributeur aussi de l'Europe. Pourquoi est-ce qu'on ne le rappelle pas également?
Mais il faut le rappeler, vous avez raison. Il faut le rappeler. Il faut rappeler aussi que si demain, on veut surprotéger, on veut effectivement fermer les frontières. Je vais vous rappeler juste que dans le Médoc, il y a une bouteille sur deux qui part à l'exportation. Qu'est-ce qu'on fait demain? On vire une rangée de vignes.
Mais d'un côté, il y a la PAC, mais ensuite, il y a ce qu'on appelle le fameux Green Deal. Il y a l'appel presque à la décroissance pour les agriculteurs européens. C'est-à-dire, l'Europe, ce n'est pas que la PAC dans les circonstances. Les normes qui s'empilent, qu'on évoquait, ça vient beaucoup de l'Europe en tant que telle. Donc peut-être que la critique de l'Europe, c'est des agriculteurs, même quelquefois, ce n'est pas contre la PAC, mais contre le côté très, très, très technocratique.
Bah, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, Monsieur Bock. C'est-à-dire que les agriculteurs, ils veulent aussi mettre fin à toutes ces normes où on a l'impression qu'on vient compliquer, là où on pourrait faire plus simple. C'est ça leur volonté. Et vous savez, quand on rencontre les agriculteurs aujourd'hui...
Est-ce que vous êtes en train de le faire, Carl Olive, pardonnez-moi, parce qu'il faut faire pression dans ce cas-là à Bruxelles. Mais... Est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens et la volonté politique de bousculer le cadre européen?
Alors écoutez bien, je pense que dans les prochains jours, il y aura également des éléments de réponse sur ce que vous dites de la part du gouvernement et du président de la République. On peut pas rester les bras croisés. J'entendais ce matin sur vos ondes le fait qu'aujourd'hui, nos génies pharmaceutiques dispensent des antibiotiques pour les poulets. Qu'on interdit ici, mais qu'on va envoyer par exemple au Brésil, et le Brésil importe des poulets ici en France qui sont effectivement, entre guillemets, prémunis grâce aux antibiotiques françaises. Mais on marche sur la tête. Même si les gens vont bien, on marche sur la tête.
Stéphane Dupont ?
Oui, vous parliez de l'Europe, vous disiez que le gouvernement veut se faire entendre à Bruxelles, mais sur l'accord de libre-échange qui est en négociation avec le Mercosur, la France dit depuis des années que c'est un mauvais accord, qu'il ne faut pas le signer, et pourtant les négociations continuent comme si de rien n'était.
Pas comme si de rien n'était, Monsieur Dupont, mais encore une fois, je pense que c'est trop facile, encore une fois, le yaka faucon, c'est pas en un claquement de doigts. Effectivement, et on s'aperçoit aujourd'hui parce que ça nous saute comme ça en pleine figure et d'autres sujets nous tomberont en pleine figure. Mais de grâce, on se met autour de la table, on discute franchement, mais on met un autre logiciel en place et on va d'abord écouter les principaux acteurs.
Est-ce que la France est entendue à Bruxelles ? Est-ce que la France pèse encore aujourd'hui à Bruxelles ?
Mais bien sûr qu'elle pèse à Bruxelles. Peut-être pas suffisamment, mais elle pèse à Bruxelles. Et encore une fois, quand vous êtes avec 25 ou 26 alliés autour de la table, ce n'est pas une imposition qui va faire que du jour au lendemain, vous allez pouvoir obtenir ce que les Français souhaitent.
L'exécutif affirme justement que le traité du Mercosur n'aboutira pas. Carl Olive en est un peu dubitatif. C'est-à-dire on nous dit qu'il y a des pressions qui sont exercées. Les négociations se passent en ce moment. Je rappelle que c'est le traité libre-échange avec l'Amérique du Sud. Où est-ce qu'elles sont ces pressions ? Est-ce qu'en ce moment, on est en train de tenter de trouver une coalition de pays pour faire échouer ces accords, ces négociations ?
Je pense qu'à l'heure où on se parle, y compris en coulisses, il y a des réunions qui ont lieu pour trouver, je dirais, le consensus qui satisfasse le plus grand nombre, effectivement. On aura peut-être des nouvelles d'ici à la fin de semaine, mais je dis souvent que je ne vais pas donner l'arrivée du tiercé avant la fin de la course.
Ça veut dire que le président de la République va s'impliquer personnellement.
Je pense que le président de la République, il s'implique, à l'heure où on se parle, je pense qu'il s'implique sur le sujet parfaitement.
Vous avez utilisé une formule forte, vous avez dit on doit changer de logiciel.
Bien sûr.
Par lequel ? Quel est le nouveau logiciel ?
Eh ben, sortir le cul des vaches, monsieur Bock.
Oui, d'accord, ça c'est une image.
Non, c'est pas une image. Ah non, ah oui, c'est une image, oui, évidemment. Oui, c'est une image, vous avez raison.
C'est pas un peu court, hein.
Pardon ?
C'est un peu court, non ? Sentir le cul des vaches, c'est bien d'aller dans les exploitations agricoles, mais ils attendent autre chose, les agriculteurs, non ?
Il y a l'amour et il y a les preuves d'amour.
Oui, non, mais il ne faut pas dire ça, monsieur Dupont, parce que je trouve que c'est assez condescendant, là, ce que vous dites. Quand on parle de sentir de logiciel, j'ai été maire pendant 8 ans, de terrain. Je ne suis pas un professionnel de la politique, je suis un professionnel du terrain. On a été réélu au premier tour avec 75%. Poissy, c'est le calque de la France. C'est 40 000 habitants, c'est des QPV, c'est effectivement y compris des agriculteurs producteurs. Faut pas dire ça. C'est un peu court. Non, c'est pas un peu court. C'est la réalité du terrain. C'est comme ça que ça se passe sur le terrain. Moi, il n'y a pas une décision qui n'a été prise sans qu'elle soit validée par les acteurs de terrain. Quand on prépare nos réunions, nos conseils municipaux, dans les quartiers, tous les mois...
Je vous dis pas qu'il faut pas aller sur le terrain, mais vous allez nous dire que c'est la réponse à tout.
Ben, je pense que c'est pas la verticalité, c'est pas je décide
alors,
et vous exécutez.
C'est très intéressant, car vous dites qu'il faut être au plus près du terrain, qu'il faut sentir le cul des vaches, qu'il faut comprendre surtout, j'allais dire charnellement, la
bien
France
sûr.
Des paysans.
Il faut aimer la France.
Très bien. Et
il
en
faut
même temps,
aimer la France.
Et en même temps, l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale, et pour être très précise, ce n'est pas une augmentation de salaire, mais ce sont des frais de mandat. Donc opte pour une augmentation de 300 euros des frais de mandat des parlementaires. Là, les bras nous en tombent au moment où il y a cette crise. Qu'est-ce que le parlementaire que vous êtes en pense ?
Je suis tombé à l'envers. Ah. Je vous le dis, je suis tombé à l'envers et je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Je suis tombé à l'envers parce que justement, M. Dupont a raison. Là, on parle, c'est un peu court. Oui, c'est un peu court de prendre des décisions en réunion de bureau sans que les députés soient même sensibilisés en réunion de groupe. Si on avait eu cette décision ou cette potentielle décision en réunion de groupe d'augmenter l'avance des frais de mandat de 300 euros, on aurait été un certain nombre en disant « est-ce que c'est le bon moment ?» Parce qu'effectivement, le prix de l'énergie ne s'arrête pas aux frontières de l'Assemblée nationale. Moi, j'aurais eu une proposition à faire. Mais plutôt que de mettre 300 euros d'avance de frais de mandat, mettez-la dans une petite besace qu'on appelle la réserve parlementaire. Et j'aurais pu aider pour récupérer des bassins de récupération d'eau de pluie dans les écoles comme je peux le faire. Je ne peux pas le faire aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de réserve parlementaire. Alors oui, je pense...
Vous êtes pour le retour de la réserve parlementaire ?
C'est une connerie. Je suis pour le retour de la réserve parlementaire. Parce que contrairement à tout ce qui a été dit...
C'est décrit comme un instrument un peu clientéliste ou...
Mais tous ceux qui disent ça sont ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de cela.
Alors,
nous, je vais vous dire, on a la haute autorité de la transparence de la vie publique. On a le déontologue qui est là. Moi, je vous garantis que les présidents d'associations qui font des fêtes de village, qui ont besoin d'un barnum, aujourd'hui, ils ne peuvent pas se l'offrir. Les institutrices, les directrices d'école, et je parle de vécu, à Bennes, dans la 12e deuxième circonscription des Yvelines, qui font des jardins partagés, ont besoin de 1 000 euros, monsieur Dupont. 1 000 euros. On ne peut pas aujourd'hui, et moi je serai le premier à leur offrir, on ne peut pas le faire réglementairement. La réserve parlementaire pourrait le faire. Et puis derrière, on fait des petits contrôles inopinés. Et puis ceux qui mettent les mains dans la confiture, clac, on leur retire complètement la réserve parlementaire. C'est pas compliqué, c'est un peu court, mais c'est la réalité de terrain.
Allons plus loin, vous avez été maire, un maire emblématique de la ville de Poissy, vous êtes député. Est-ce que certains militent pour le retour du cumul des mandats, parce que c'est une manière d'être plus proche du terrain, de bien connaître évidemment à la fois et d'avoir cette casquette de maire et de parlementaire, est-ce que vous y êtes favorable ?
Non seulement j'y suis favorable, mais je peux vous dire quelque chose, Sonia Mabouk, je ne vais rien lâcher sur le sujet. Ce n'est pas pour me faire plaisir. C'est juste que quand vous avez en 2012 250 maires députés à l'Assemblée nationale et qu'aujourd'hui vous en avez zéro, il y a un juste milieu. Quand on parle de déconnexion du terrain, et je ne montre pas les députés qui viennent de la société civile à ceux qui ont été maires. Mais encore une fois, toutes les expérimentations que j'ai pu faire en tant que maire et qu'aujourd'hui je tente modestement de mettre en place à l'échelle du pays, je vous en donne une. Les 2 heures de sport aux agents dans le cadre du temps de travail par semaine à Poissy. Amélioration des conditions de travail, baisse de l'absentéisme, 2,5 millions d'économies. C'est quelque chose qui est très concret.
Carl Olive.
Et je pense que le Premier ministre doit pouvoir l'entendre aussi, cette expérimentation de terrain avec les maires.
En tout cas, ce qu'il est en train d'entendre, ce sont les revendications de ces agriculteurs, ces paysans. On va l'écouter.
2015, ça a été interdit. Ouais. Et c'est européen l'interdiction ? Et alors, comment on explique ? Ce que dit monsieur, c'est qu'il y a des pays.
La clause de sauvegarde a été mise sur le 10 mégawatts en 2015. Et depuis 2016, c'est une interdiction européenne. Donc, on a le même sujet que le FOSMED. Donc, parfois, il y a peut-être des contournements. Il y a de la fraude, si on se dit les choses, mais globalement, c'est une interdiction.
Officiellement, dans les pays qui étaient cités, vous citiez l'Italie, je crois, officiellement, il y est interdit. Donc là, c'est plus un sujet de contrôle et de lutte contre la fraude qu'un enjeu d'interdiction dans les autres pays européens. Mais j'entends, c'est un sujet dont on parle, moi, partout où je me déplace.
C'est un vrai sujet. On importe 40% de nos fruits et légumes.
Ouais, bien sûr.
Donc c'est un vrai problème. Ça a été dénoncé, ça. Il faut qu'on avance là-dessus. C'est pas possible.
Il y a d'autres molécules où vous êtes...
Le BASTA, par exemple, qui a été interdit. Bon, mais tout ça, on a trouvé des solutions. Qu'est-ce que vous voulez ? De toute façon, il faut avancer. Donc on avance.
On trouve des solutions par l'absence... On trouve des solutions. Non, il y a des productions, on ne trouve pas de solutions. Certaines productions, par exemple, haricots de semence, c'est une molécule qui rentre en interdiction à partir de cette année sur le désherbage. Et il est évident qu'on n'a pas de substitution. Pas que dalle. Rien. Donc, progressivement, ce sont des productions qui quittent le territoire, département, région, et qui vont ailleurs. Alors après, le monde s'approvisionne en semences de haricots, par exemple, c'est pas le problème. Mais ça veut dire que c'est de la valeur ajoutée. Ce sont des créneaux sur lesquels en fait on peut développer de la technique ou d'autres aspects qui donnent un peu d'attractivité dans le métier sur cet exemple précis. Mais c'est un exemple. En fait, on a les néonicotinoïdes sur les betteraves, vous connaissez le problème.
Oui, d'ailleurs on a réautorisé pour les betteraves.
Par dérogation, de manière dérogatoire. Donc on sait très bien du dérogatoire, c'est pas fait pour durer. Bon, et dans le même temps, en Allemagne, on continue à faire des betteraves avec des néonicotinoïdes, sans dérogation. Enfin, on est dans cette complexité. Sur le terrain, c'est reçu comme des aberrations, des zones de non-compréhension.
Ouais, j'entends totalement.
Pourquoi on nous dit qu'on ne nous laisse, on laisse pas sans solution quand la France ne s'abstient de voter à la réhomologation du glyphosate, on ne comprend pas très bien sur le terrain. On n'a pas de solution. L'INRA a travaillé sur le dossier, ok, mais ce n'est pas parce qu'on a travaillé sur le dossier qu'on a les solutions. Les solutions, on sait très bien que sur ce dossier-là, c'est plus de travail de sol, plus d'utilisation de carburant, plus d'émissions de CO2, fertilité des sols. Quand on travaille des sols, en fait, on s'aperçoit aujourd'hui, via l'aspect agroécologique, en fait, on diminue la fertilité des sols. Donc, en fait, on marche à l'envers, quoi. Enfin, c'est incompréhensible sur le terrain.
Sur la tête, oui.
En attendant la réponse du Premier ministre Gabriel Attal, vous l'avez entendu, il est interpellé, le Premier ministre, dans cette exploitation bovine sur les produits importés. À ce sujet, Carl Olive, au Parlement européen, le groupe de la majorité, de votre majorité, Renew, a voté par exemple pour l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Accord qui va faire arriver massivement via des agneaux, du lait, etc. Certains vous accusent d'un double langage. À Paris, proche des agriculteurs de la paysannerie, à Bruxelles, eh bien, c'est pas grave. À gogo, les accords de libre-échange.
Pour autant, ça n'empêche pas que même s'il y a effectivement ces accords ou qu'on va effectivement sur du libre-échange, hein, et qui est un libre-échange qui est assumé, mais il faut que ça soit un libre-échange qui soit assumé, mais conditionné. Je regardais un tout petit peu les statistiques. 70% des cultures de fruits, enfin récoltes de fruits et 30% des légumes consommés en France viennent finalement de l'exportation. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, on a un empilement des complexités et qu'on impose. Et merci les ayatollahs de l'écologie d'être passés par là.
Les ayatollahs de l'écologie.
Ah bah écoutez, c'est sûr qu'entre les Khmers verts et les Khmers rouges...
Qu'est-ce que nous avons en France ?
Ah ben, mais il suffit de poser la question aux agriculteurs et vous allez voir leur réponse. Encore une fois, on parlait du bio et c'est très bien le bio, mais il faut aussi que nous assumions tout cela.
Est-ce que votre gouvernement, il ne fait pas aussi du zèle en matière de transposition ? On parle de surtransposition des règles européennes qui, des fois, la France veut être en pointe sur un certain nombre de réglementations, notamment environnementales. Est-ce que le gouvernement n'a pas aussi sa part de responsabilité ?
On a tous notre... Vous avez raison, Monsieur Dupont. On a notre part de responsabilité. Et il est temps, effectivement, non plus d'interpréter les règles, d'ailleurs c'est ce qui se passe, mais de les appliquer.
Sinon, on dirait que vous êtes en train de dire, car vous qui avez prévenu, votre présence est pertinente en ce jour, vous aviez alerté sur cette crise agricole. Sinon, que va-t-il se passer ? Est-ce que vous pensez qu'on touche là du doigt la fin d'un système ? Et une colère vraiment prégnante.
D'abord, moi, je suis absolument pas là en donneur de leçons. J'essaie modestement d'apporter la contribution de terrain. Et c'est l'objectif que je veux partager ici avec vous. Oui, de la frustration. Et oui, la nécessité absolue. Et je pense que la présence de Gabriel Attal sur le terrain. Mais encore une fois, le Premier ministre, il va être jugé sur ses résultats. Comme ça s'est passé pendant 6 mois au niveau de l'éducation nationale. Il sera jugé sur ses résultats. Il faut que nous soyons jugés sur les résultats. Mais encore une fois, le monde agricole en France est au bout du rouleau. Et ça date pas d'hier. Une personne qui travaille 70 heures, 80 heures, qui est aujourd'hui en retraite avec 980 euros de retraite, c'est compliqué. C'est plus que compliqué. Et ces gens-là ne se plaignent pas. Ils veulent être simplement payés au juste prix et avoir les mêmes conditions, pas mieux, pas moins bien traités.
Mais simplement, de votre point de vue, est-ce que tout est en train d'exploser en ce moment ou il y a encore une possibilité de rattraper la situation ?
Alors, vous avez raison. Je pense que la prochaine cocotte minute qui nous pend au nez, c'est le sujet du logement. Le logement, on est en pleine cocotte minute en France. Il faut évidemment prendre ce sujet à bras le corps. Je dis souvent, moi qui adore la mixité sociale, celle qu'on a pu mettre en place notamment à Poissy, qu'il n'y a pas de mixité sociale, on en a déjà parlé, Monsieur Bock, sans mixité de logement, et qu'avant l'urgence du peuplement dans nos quartiers, il y a l'urgence du logement. Si on peut, encore une fois, épargner les constructeurs, les promoteurs, si on peut faire un contrat gagnant-gagnant avec les banques, ça ira beaucoup mieux dans ce pays. Et puis, si on peut arrêter les injonctions paradoxales, il faut construire, mais finalement, on met des normes encore un peu plus importantes pour dissuader les constructeurs, les promoteurs et les élus politiques.
Pour conclure aussi, Carl Olive, le Premier ministre va tenir son discours de politique générale dans quelques jours. Est-ce que tout cela n'est pas écrasé par cette crise agricole ? Vous avez souligné que Gabriel Attal vient d'arriver à Matignon et comme disait Raymond Barre, il faut durer et endurer déjà une première crise profonde, importante. Vous qui le connaissez également, ce jeune Premier ministre, est-il justement à la hauteur de ce moment particulier avec face à lui, on le voit sur ces images, une France profonde qui exprime des colères déjà depuis bien longtemps ancrées.
Madame Mabrouk, quand Gabriel Attal a été nommé à l'éducation nationale, on s'est dit, qu'est-ce que ce gamin va faire à l'éducation nationale ? En 6 mois de temps, il a renversé la table. Il a réussi à reprendre langue avec le monde enseignant et à mettre sur table des décisions qui sont très importantes. Et c'est unanimement reconnu. J'ai aucun doute sur la capacité à Gabriel Attal, non pas de contourner les obstacles, la preuve c'est exactement le contraire, de se retrousser les manches et d'aller écouter et de prendre le pouls, c'est Dupont pardon, c'est peut-être un peu court, mais de prendre la température du terrain. Parce que comme le disait Jean-Jacques Rousseau dans son contrat social en 1762, les maisons font la ville, mais les citoyens font la cité. Qu'est-ce que j'attends du discours de politique générale ? D'abord, de l'engagement et de la réciprocité entre les droits et les devoirs sur la valorisation du travail. Il est encore inacceptable, Madame Mabrouk, qu'aujourd'hui, il y ait toujours un intérêt à rester chez soi plutôt que d'aller travailler. Et ça, je veux l'entendre. Nous voulons l'entendre.
Donc
les Français veulent l'entendre.
Il parle à la France qui se lève tôt, à la France qui travaille, à la France qui veut être payée, j'allais dire, au juste prix. C'est à cette France-là que le gouvernement doit parler aujourd'hui.
Je veux
et
aussi
pas à la France
qu'on explique...
métropolisée.
Oui, oui.
Bah, parce qu'on l'oppose. Hein,
oui, oui, non, mais vous avez raison. Moi, je veux simplement dire que nous avons un beau pays. Tout n'est pas parfait, mais la France est un beau pays. Et la France, il faut que nous l'aimions, que nous la respections et que nous soyons sans état d'âme lorsqu'il y a des décisions à prendre, cette fameuse réciprocité entre les droits et les devoirs. Moi, je souhaite que Gabriel Attal soit acteur de son mouvement, de son gouvernement, et pas spectateur de ceux des autres, y compris de ceux qui nous entourent.
À bon entendeur, et vous en êtes l'un des premiers soutiens. Carl Olive, on vous remercie. Dans quelques instants, à votre place, un autre élu, vision très différente, bien sûr. Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National, je vous remercie. Merci aussi pour cet éloge hein, de la France des paysans. On va écouter justement Gabriel Attal dans cette exploitation bovine, et puis place à notre second invité dans quelques instants. Mourir. Encore merci.
Et on a la chance en France d'avoir une agriculture de qualité. On veut la garder. On en a besoin pour notre pays parce que c'est plus l'identité de notre pays si on perd notre agriculture. Ça, c'est une évidence. Maintenant, je pense qu'il faut en revenir à des choses simples. C'est quoi pour nous les priorités pour nos agriculteurs? D'abord, c'est produire. Et je le dis parce que c'est un débat politique, on le voit, vous avez
dit. Mais c'est un vrai débat, bah oui. Il n'est pas tranché.
Bah, en tout cas, de notre point de vue, il l'est. Bah, et ça, je vous le dis.
Non, mais je vous le dis clairement.
Bah, je le dis, je vous le dis clairement, c'est pour ça que je suis là. Mais je vais y venir ensuite sur ce que ça veut dire concrètement. Mais oui, développer notre agriculture, ça veut dire produire.
Et retrouver notre souveraineté alimentaire.
Absolument.
Arrêter
absolument
d'importer des produits qu'on pourrait faire chez nous.
Et ceux qui disent...
d'habiter des filières.
Et ceux qui disent que l'objectif, c'est de produire moins, c'est une forme de décroissance de notre agriculture. On sait qu'ils existent. Il y a une offre politique pour ça. Il y a des gens qui proposent ça. Mais je vais vous dire, non seulement c'est pas notre point de vue à nous, on a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, mais je crois pas du tout que ça soit le point de vue des Français. Ils sont bien conscients que si on veut être autonome, si on veut être souverain, il faut produire. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est protéger. Et protéger, ça veut dire quoi? Protéger nos agriculteurs, nos éleveurs face à la concurrence déloyale. Je vais y revenir dans un instant. Et protéger aussi face au changement climatique. Parce que la réalité, c'est que ceux qui opposent nos agriculteurs et l'environnement en expliquant que nos agriculteurs seraient un danger pour l'environnement, ils oublient de dire que les premières victimes du dérèglement climatique, c'est nos agriculteurs. Et vous l'avez dit très bien, le gel, la sécheresse, les canicules, les tempêtes, comme on l'a vu, les inondations.
Cette année, les trop d'eau, voilà.
C'est vous qui en êtes les premières victimes. Donc ça n'a aucun sens d'expliquer que vous seriez insensible au changement climatique. Au contraire. Par ailleurs, vous êtes des citoyennes, des citoyens comme tout le monde, et donc vous voulez protéger la planète et notre pays. Mais en plus, c'est vous qui êtes les victimes dans votre travail. Une fois qu'on a dit ça, on sait qu'il y a des chantiers qui prennent un peu de temps. Et ça, vous êtes aussi conscient. Il y a des choses qui ne peuvent pas se changer du jour au lendemain. L'important, c'est de changer d'état d'esprit et d'emmener le pays dans une nouvelle direction. Et c'est ce que, avec le président de la République, c'est ce qu'on veut faire. J'ai fait des premières annonces vendredi dernier, donc il y a deux jours. Et dans ces annonces, il y a notamment ce changement d'état d'esprit. Il faut qu'on sorte d'une organisation où c'est davantage de contrôle que d'accompagnement, davantage de sanctions que de soutien, et globalement, une vie où vous avez le sentiment de passer plus de temps devant vos écrans à remplir des formulaires que dans vos champs. Voilà. Ça, il faut en sortir. Vous parliez des contrôles qui se multiplient, etc. Qu'est-ce que j'ai annoncé vendredi? Qu'on allait mettre en place une nouvelle organisation pour que sur les contrôles administratifs, il n'y ait pas plus d'un contrôle par an, et qu'on allait confier au préfet l'organisation des plans de contrôle pour garantir que vous ne vous retrouviez pas avec des contrôles tous les 15 jours ou tous les mois, mais qu'il y ait un contrôle administratif par an. Ça, c'est un gros chantier. Et on va y arriver. Qu'est-ce que j'ai dit ensuite? Que sur tous vos projets, notamment s'agissant de l'irrigation, de l'eau, on a aujourd'hui des possibilités de recours qui s'empilent les unes après les autres. Dès qu'il y a un projet qui sort, d'ailleurs pas uniquement sur l'eau, mais si vous avez un bâtiment d'élevage que vous souhaitez, il y a un recours
tout
systématique.
Tout est attaqué en agriculture. Voilà.
Le projet n'a même pas le temps de sortir. Il y a juste l'idée, on a déjà tout le monde sur le dos.
Qu'est-ce que j'ai annoncé vendredi? J'ai dit, aujourd'hui, le délai pour des gens qui veulent faire un recours contre un de vos projets, c'est 4 mois. Ils peuvent attendre jusqu'à 4 mois, faire un recours. On divise par 2. On passe à 2 mois. Qu'est-ce que j'ai dit ensuite? On va supprimer un niveau de juridiction pour que ça aille plus vite, l'examen des recours. Qu'est-ce que j'ai dit? Enfin, et ça, c'est la loi, donc ça mettra quelques semaines, quelques mois, puisqu'il y a le projet de loi orientation agricole qui arrive, donc ça va nous permettre de le faire. J'ai dit qu'on allait mettre dans la loi une limitation dans le temps de la durée que prennent les recours. Aujourd'hui, c'est jusqu'à 2 ans pour bloquer un projet en multipliant les recours les uns après les autres. On va mettre dans la loi, ça ne peut pas être plus de 10 mois. Donc ça va considérablement accélérer tous les projets. Et ensuite, il y a un enjeu avec nos administrations, où il faut qu'elles délivrent aussi les autorisations, parce que j'ai eu quelques exemples. Je me suis déplacé de projets sur l'eau, par exemple. Vous avez tous les recours qui sont épuisés et on attend juste la décision de l'administration. Donc là, il faut avancer. Et globalement, je vais vous dire, il faut
faut qu'on soit capable de donner plus de marge de manœuvre au niveau local. Parce que la réalité, c'est que en Ariège, les préoccupations sont pas les mêmes et les problèmes sont pas les mêmes qu'ici, en Indre-et-Loire. Et donc, on peut pas avoir un cadre uniforme depuis Paris qui régit toutes les filières, tous les territoires et toutes les régions. C'est une évidence. Et
en plus,
et même à l'échelle de votre territoire, vous travaillez sur du vivant. Et donc, la loi, elle n'est pas vivante. Les règles administratives, elles ne sont pas vivantes. Donc, il faut qu'on vous donne plus de marge de manœuvre avec les préfets qui contrôlent. C'est ça l'état d'esprit. Ensuite, il y a un enjeu. Là, moi, je veux qu'on me clarifie les choses et qu'on voit les mesures qu'on peut prendre supplémentaires sur ces histoires de concurrence déloyale. C'est pas normal que vous soyez empêché d'utiliser certains produits, que ça vous empêche mettre en place dans vos exploitations et donc de produire comme il faut, mais que vous ayez des pays voisins, Italie ou autres, qui eux les utilisent et que ça arrive ensuite chez nous. Donc là, il faut avancer à la fois au niveau européen et on va regarder produit par produit.
Non, mais c'est... Voilà, moi, c'est cette fameuse transition agroécologique que j'appelle de mes voeux en tant que citoyen. Ouais. Mais à un moment donné, comment on fait ? Hein ? On n'a pas les mêmes contraintes en Italie, en Espagne. Là, je reviens sur les fruits et légumes. Là-bas, franchement...
Il répond aux questions et puis aux interpellations de ces paysans, agriculteurs. Là, nous sommes dans une exploitation bovine en Indre-et-Loire. On accueille notre deuxième invité. Bonjour Jean-Philippe Tanguy.
Bonjour, c'est Mabrouk.
Merci de votre présence, député Rassemblement National. Justement, on va vous faire réagir. Alors là, dans les mots, on a besoin de nos agriculteurs. Il faut retrouver notre souveraineté, diminuer le recours, donner plus de marge de manœuvre, s'attaquer aussi à l'administration. Vous diriez la même chose, mais est-ce que vous faites confiance justement dans l'application de ces mots en acte?
Non mais pas du tout, écoutez, je vais essayer, franchement, moi j'admire le calme des agriculteurs qui écoutent le Premier ministre, parce que tout ce que décrit Gabriel Attal, c'est le macronisme depuis 7 ans, c'était avant lui le hollandisme avec M. Macron, ministre de l'économie, et c'est toute la construction européenne depuis au moins 1992, faut pas dire avant l'acte unique, 1986, c'est-à-dire... Il dénonce la concurrence déloyale. La concurrence déloyale, elle est inscrite dans les traités européens puisqu'elle consiste à ouvrir, à croire que le doux commerce, comme disent les macronistes, va améliorer le monde et va mettre tout le monde entier en concurrence. Et donc, nos agriculteurs sont en concurrence avec l'Amérique du Sud, avec le Vietnam, avec tous les pays qui n'ont évidemment pas du tout de normes. Et ensuite, les traités européens organisent la concurrence déloyale au sein de la communauté européenne, au sein du marché commun qui aurait dû unir les économies entre elles, qui auraient dû les harmoniser, mais non, surtout depuis l'élargissement à l'Est, et maintenant on nous parle, M. Attal, M. Séjourné, son ministre, nous parle d'élargissement à l'Ukraine, organise la concurrence, non pas déloyale, abrupte, sauvage, la plus injuste possible, avec des gens qui ne respectent aucune de nos normes, et même qui vivent du fait, maintenant, parce que c'est organisé, moi j'étais attentif à ce qu'ils disaient au Brésil, le Brésil aujourd'hui organise en fait sa production agricole en sachant que l'ancien champion agricole qui était la France se désarme. Donc on est tellement dirigé par des imbéciles, excusez-moi, que nos principaux concurrents anticipent les erreurs de nos gouvernements pour affaiblir notre agriculture.
Qu'est-ce qu'il faut faire, M. Tanguy ? Il faut fermer les frontières ?
Mais pas du tout, j'entendais, j'aime bien Carl Olive, c'est pas, vu ce qu'on a en Macronie, c'est le meilleur, si je puis dire. Mais nous exportons nos vins, par exemple, parce que c'est l'exemple qu'il donnait, nos vins de Bordeaux, depuis le Moyen-Âge. C'est un produit d'excellence reconnu dans le monde entier depuis le Moyen-Âge. Nous n'avons pas besoin d'un traité de libre-échange pour exporter nos vins, nos cognacs, nos champagnes. Il n'y en a pas assez, vous le savez. De toute façon, on n'a même pas assez de cognac et de champagne pour satisfaire la demande mondiale. Donc tout ça, c'est du baratin. La France a des produits d'excellence.
Baratin, imbécile, vous y allez fort.
Mais oui, mais écoutez, ce qu'on va fort, c'est la situation. Excusez-moi. Moi, la situation auquel fait face nos agriculteurs, mais tous ceux qui produisent en France, c'est une situation où on avait de l'or dans les mains. Le travail de générations entières qui faisait des produits d'excellence reconnus dans le monde entier. Il n'y a pas beaucoup de pays qui attirent des touristes du bout du monde pour venir découvrir la gastronomie d'un pays. Il n'y a pas beaucoup de pays. Ça, c'est grâce aux agriculteurs. C'est pas grâce à Emmanuel Macron. Voilà. Bon. Et ils, de l'or dans les mains, et ils ont tout saccagé avec des doctrines qui non seulement sont incohérentes économiquement, qui n'ont qu'un sens, je vais les montrer avec les vins. On n'a pas besoin de produits de traité de libre-échange pour exporter des produits d'excellence, mais qui ont saccagé le travail des autres et qui en ont enrichi d'autres.
L'étape ultime
du macronisme, c'est à qui bien. Sert le macronisme ? Ça sert des gens qui s'en mettent plein les poches. Et on voit depuis jamais l'alimentation, excusez-moi, jamais l'alimentation n'a été aussi chère et jamais les agriculteurs n'ont si peu vite quitté leur travail. Comment ?
L'exécutif joue contre les intérêts de la France ?
Bien sûr.
Ça vous paraît évident.
Des grands groupes agroalimentaires et
Oui, et ben justement,
avoir des grands groupes agroalimentaires dans une autre nation. Moi, je connais parfaitement le Japon. Hein. Les grands groupes japonais, c'est au profit des Japonais. Et bien en France, les multinationales françaises, c'est au profit de tout le monde, sauf des Français. Et je redis ma phrase, jamais l'alimentation n'a été aussi chère en France. Jamais les agriculteurs n'ont aussi peu vécu de leur travail. Ce seul paradoxe explique le désordre économique qu'est la Macronie, c'est-à-dire la confiscation du travail. Il ne s'agit pas de subventions, de chèques, hein, la politique du chèque. Le travail des agriculteurs, le travail des pêcheurs, le travail des artisans, notre industrie, est confisqué par des gens qui, eux, ne travaillent pas beaucoup, voilà, et qui s'en mettent plein les poches, ce que Marine Le Pen avait dit les profiteurs.
Pardonnez-moi, Mathieu Bocquet, parce que c'est grave. Qui s'en met plein les poches? On dirait que vous êtes en train de dénoncer une sorte de détournement de fonds
du travail. Mais la mondialisation sauvage depuis 30 ans,
voilà,
pourquoi ça ne fonctionne pas?
Je préfère vous préciser vos propos.
Mais bien sûr, pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est parce que ce système qui a aboli les frontières, quand vous abolissez les frontières, une démocratie, c'est un peuple, une loi et un territoire. Pour que le peuple fasse appliquer la loi, il faut un territoire avec des frontières. S'il n'y a plus de frontières, la loi ne s'applique plus et le peuple ne peut plus faire appliquer sa volonté. C'est ça la souveraineté. Il a le mot dans la bouche, mais M. Macron fait l'inverse. La souveraineté, c'est pouvoir faire appliquer la volonté populaire sur son territoire. En supprimant les frontières, certains ont utilisé le système de la mondialisation pour voler, confisquer, je le dis, le travail des autres. Alors seul profit, ça détruit la valeur travail. Ça détruit notre économie et on se retrouve comme le Covid avec une angoisse. On se dit, mais est-ce qu'on peut encore nourrir la France? Et moi, j'ai cru qu'avec le Covid, les gens allaient se réveiller en se disant, ah bah oui, on ne peut pas se passer d'agriculture, on ne peut pas se passer d'industrie. Il y a des biens essentiels qui ne sont pas comme les autres et la France, on ne va pas se nourrir de sacs à main et de touristes. Voilà, c'est très bien, ce sont des beaux secteurs français, mais avec la mondialisation de plus en plus dure, on peut être amené à avoir des ruptures d'approvisionnement. Et aujourd'hui, oui, la France pourrait ne plus manger. Pourrait ne alors plus dites, avoir de produits de
ne
santé.
Ne plus manger, ça c'est la question de la souveraineté
alors
alimentaire.
Les gens, vous avez espéré avec la Covid que les gens se réveillent. Mais est-ce que pour vous, qui devait se réveiller? Les dirigeants, les Français qui est endormi en ce moment?
Les dirigeants. Moi j'ai entendu M. Macron dire qu'on ne pouvait plus dépendre de l'étranger pour notre souveraineté alimentaire. Il a fait un très grand discours là-dessus. Comme il a dit qu'on ne pouvait plus dépendre de l'étranger pour nos produits médicaux. Il n'y a jamais eu autant de pénurie de médicaments. Et on n'a jamais été aussi dépendant des importations sur notre alimentation stratégique, voilà. Mais et sur des choses aussi essentielles que le poulet, voilà, qu'est la viande, des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent. Je vous rappelle que quand même, pouvoir avoir une volaille sur sa table, c'est une promesse du rêve français depuis Henri IV. Sont des choses très symboliques parce que l'agriculture, c'est aussi l'âme de la France. Et quand les gens se disent, bien, le poulet que je peux offrir à ma famille le dimanche ne vient plus de France, il vient plus de Pologne, il vient même d'Ukraine. Eh bien, il y a un désordre économique. Et nous, avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, ce qu'on veut, c'est remettre de l'ordre.
J'entends. Alors, on vous accuse, en tous les cas, le gouvernement, l'exécutif, vous accuse de récupération politique, de surfer sur les colères des agriculteurs. Et certains pointent aussi votre double discours avec des votes. En tous les cas, pas de position claire sur certains traités de libre-échange. Par exemple, l'accord de libre-échange UE-Chili. Qu'est-ce que vous répondez à cela, Jean-Philippe Tanguy?
Mais tout le monde peut consulter votre. Thierry Mariani, qui était notre représentant à ce vote, a voté contre. Donc, je ne comprends pas cette accusation. Nous avons toujours été contre les traités de libre-échange, qui sont d'ailleurs très mal nommés. Ce n'est pas des traités de libre-échange, ce sont des traités de sauvagerie, voilà, de brutalité, où on met les plus modestes d'entre nous, ou les artisans qui vivent de leur terre, de leur travail, face à face dans le monde entier, sans protection. Voilà. Donc ils portent très très mal leur nom. Nous, on a toujours été pour passer au juste échange, c'est-à-dire dire oui, le commerce peut être un bénéfice, déjà ce n'est pas un objectif en soi, mais ça peut être bénéfique s'il est bien organisé, si les concurrences sont établies. On parle beaucoup des clauses miroirs, vous savez, c'est-à-dire garantir que les règles...
Que personne n'a vraiment réussi à imposer ces fameuses clauses miroirs qui imposent, rappelons-le à nos auditeurs et téléspectateurs, les mêmes normes.
Il faut qu'elles existent, mais qu'est-ce que ça veut dire les clauses miroirs? Moi, je me souviens du traité avec le Canada, le CETA. C'est parce qu'il faut les appliquer. Alors, avec le Canada, on peut espérer qu'il y a une démocratie.
En studio qu'à la table du Parlement européen.
En fait, on rassure les gens. Monsieur Attal va sans doute le faire encore tout à l'heure. On vient rassurer les gens, comme K, vous savez, le serpent dans le livre de la jungle. On vient rassurer les gens, tout va bien se passer. On va mettre des clauses miroirs, on va y avoir la concurrence loyale, tatati, tatata. Mais en fait, c'est un objectif qui est en lui-même impossible. Car compte tenu de la force, de la monstruosité, au sens strict du terme, du commerce mondial, vous ne pouvez pas aller contrôler les normes. Ça a expliqué. Souvenez-vous, Bangladesh, ces pauvres ouvrières dont l'immeuble s'est effondré sur elle-même, faisant plusieurs milliers de morts. Pourquoi? On ne peut pas contrôler les normes. On ne va pas envoyer des contrôleurs dans le monde entier pour vérifier les conditions de travail.
Une fois au pouvoir, imaginons que vous arriviez quand même à mettre en place ces clauses. Qu'est-ce qui interdit les autres pays de nous sanctionner, de mettre en place des contreparties? C'est ce qui était arrivé avec Donald Trump aux États-Unis. Comment vous pourriez protéger les intérêts français dans ce cas-là?
Mais il faut résister. Donald Trump, il aurait bien pu dire à la télé que le champagne français était très vilain, les Américains, ils auraient voulu du champagne français. Il faut faire confiance à la valeur de nos produits, à la force de nos produits. Moi, ce qui m'exaspère dans la façon dont on a délégué le commerce international à des gens qui ne connaissent pas d'ailleurs la France et qui s'en fichent, c'est qu'on ne fait même pas confiance à nos propres producteurs. On le sait pourtant. La France est très fière. On a fait reconnaître la baguette et la gastronomie comme un patrimoine mondial de l'humanité. La France est une puissance, une marque française. La marque fabriquée en France, en particulier pour ce qui est de l'agriculture, de la gastronomie, est une marque mondialement reconnue. Nous n'avons pas besoin de nous abaisser à aller négocier des accords. Excusez-moi, qu'est-ce qui a plus de valeur, le poisson vietnamien ou le Bordeaux français? Je crois que, sans insulter le Vietnam, la marque de la qualité du vignoble bordelais est plus réputée que celle du Vietnam.
Jean-Philippe Tanguy, là, donc vous marquez votre solidarité avec les agriculteurs. Plusieurs annoncent leur désir d'assiéger Paris dans les prochains jours. Êtes-vous solidaire aussi de cette promesse et de ce siège possible?
Non, mais le siège, bon, il faut des mots forts pour se faire entendre. Bon,
bah, vous savez, il est fort, non?
Oui, il est fort, mais et vous savez, les agriculteurs, moi j'étais avec eux, moi je suis élu d'un député, d'une circonscription, pardon, agricole. D'ailleurs, dès juillet 2022, j'avais déposé un amendement pour mettre fin à la dérive sur le GNR. J'avais senti, nous avions senti avec le groupe et Marine Le Pen les choses parce que nous sommes élus de cet territoire. Mais je ne vais pas me défausser sur votre question. Il y a deux choses. Déjà, les Français le savent, la violence, elle s'exerce avant tout dans le monde agricole. Le fait que j'entends des gens débattre, savoir s'il y a un agriculteur qui suscite tous les deux jours ou deux tous les jours, de débats morbides, complètement ignobles. Il y a une violence qui s'exerce au sein du monde agricole contre eux. La difficulté, la terreur que représente aujourd'hui le fait de ne pas pouvoir vivre de son travail, de décevoir sa famille, de perdre une exploitation qui a pu être dans des générations et des générations, et de voir ce rêve familial arriver à une fin. Donc il est normal que les agriculteurs veuillent se faire entendre. Je rappelle que depuis des mois,
quelle
que
soit l'action,
la méthode, c'est pas nous.
On entend même le ministre de l'Intérieur.
Il faut que chacun doit rester à sa place.
C'est normal que les agriculteurs bloquent les routes et qu'il est hors de question d'envoyer.
Il le sait, M. Darmanin, l'état d'esprit, il le sait, les renseignements. Enfin,
on marche pas sur la tête.
Les renseignants, attendez. Les agriculteurs se battent pour leurs conditions de travail. Il y a eu l'essentiel, 99% des manifestations se sont très bien passées. Ce sont des gens encadrés, responsables. Ne cherchons pas à créer des problèmes. Par ailleurs, les agriculteurs savent que le succès de leur mobilisation, il est dans le soutien populaire. Donc ils ne vont pas aller dégrader ce soutien populaire en faisant n'importe quoi. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et d'ailleurs, pourquoi il y a un soutien populaire, 98% selon les sondages? Parce que les Français sentent très bien que derrière le combat des agriculteurs, c'est le combat de tous ceux qui veulent vivre de leur travail. Et ils se disent que si un agriculteur qui a les compétences, qui a son outil de travail, qui a sa terre, n'arrive pas à vivre de son travail, eh bien personne n'y arrivera.
C'est du bon sens,
personne n'y arrivera. Et donc derrière le combat des agriculteurs, il y a tous les classes moyennes. On sait bien en Occident, c'est la crise des classes moyennes, qu'ils veulent vivre de leur salaire. Je suis désolé, c'est vrai que ça me tient à cœur tout ce qui
se passe. Mais on l'entend comme beaucoup, d'ailleurs, Caroline, la même chose. Et c'était le pari, si je peux dire, cette émission, c'est d'avoir des élus, des députés qui connaissent ces sujets. Et pour aller plus loin sur le cadre européen, Jean-Philippe Tanguy, est-ce que par exemple, il faut en finir avec la politique agricole commune? Le Premier ministre a rappelé combien elle rapportait à nos agriculteurs. Certains disent, mais on ne peut pas attaquer ainsi l'Europe si attaquer la PAC. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument?
Mais je leur réponds qu'une fois plus, il ment aux Français. La PAC, ce n'est pas une seule politique. La PAC, ça veut dire, on a fait un marché commun agricole, donc il doit y avoir des outils européens. Mais comment fonctionnent ces outils européens? Donc il ne s'agit pas de critiquer la PAC. Il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on fait de cet argent. Je rappelle l'argent des Français. Les Français, cette année, 24 milliards.
Dans ses principes.
Non, mais les principes, c'était quoi la PAC? C'était de dire au début, parce que tout a évolué. Au début, c'était l'Europe doit être autosuffisante de point de vue alimentaire. Donc on favorise la production, on favorise l'équipement, la robotisation, les tracteurs, le remembrement. Tout ça a fonctionné. L'Europe est devenue autosuffisante alimentaire. Mais après, c'est devenu un outil de contrition de la production, de décroissance, de punition. En fait, on a puni les agriculteurs pour avoir réussi à nourrir l'Europe. C'est ça ce qui est absolument paradoxal. Donc la PAC aujourd'hui, ça doit redevenir un instrument d'investissement. Par exemple, la recherche. Je rappelle que les écologistes qui passent leur vie à pleurnicher sur le sort des agriculteurs sont tellement irresponsables qu'ils sont allés saccager la recherche.
Comment vous les qualifiez, Ayatollah Vert, dit Carl Olive, et vous?
Pour moi, ce sont des petits bourgeois pourri gâtés, voilà, qui ont eu la chance, le privilège à l'échelle du monde, le privilège à l'échelle
le
du monde d'être nourris.
Pas seulement chez
mais des petits bourgeois. Non, mais attendez, mais moi je vais vous dire ce que sont ces gens. Des gens qui ont le privilège d'être bien nourris par nos agriculteurs, d'être bien protégés par la santé et les progrès de la santé, d'être bien éduqués, d'avoir la sécurité, et qui ont tout cela et qui saccagent tout ce qu'ils ont eu. Et moi, vous savez, je viens du monde de l'énergie. Et en fait, la Macronie s'est soumise à toutes ces dingueries, pas des écologistes, je vous dis des petits bourgeois qui ne connaissent rien au monde. Et de la même manière qu'on a saccagé le nucléaire parce qu'on pensait qu'on aurait toujours de l'énergie, eh bien on a saccagé l'alimentation parce qu'on a cru que la France serait toujours nourrie. Eh bien non, dans le monde qui est aujourd'hui, le monde qui s'annonce, l'alimentation, ce sera une condition sine qua non du développement humain. Et il n'est pas garanti dans un monde à 9 milliards que tout le monde mange à sa faim,
après,
évidemment.
Les bourgeois,
et
comme les autres, on en a besoin. Hein, parce que comme
non, non, je n'ai pas dit français, des bourgeois, des petits, parce que ce sont des gens qui ont un esprit étriqué voilà, et qui ne voient leur petit monde. Et pourquoi ils viennent à Paris? C'est parce qu'ils veulent dire à ces gens-là qui donnent des instructions complètement surréalistes à tous les territoires de France que Paris, sans les agriculteurs, de la même manière que pendant le Covid, sans les soignants, eh bien, ce système qui fonctionne si bien s'effondre.
On va revenir
donc
sur
je pense
le
que
terrain.
Si cible Paris et Rungis, c'est pas pour embêter les Français qui travaillent, évidemment, c'est pas pour embêter tous ceux qui souffrent autant que les agriculteurs. C'est de se dire coucou les dirigeants français, sans nous, votre système qui est si bien huilé de l'extérieur s'effondre.
On va revenir sur le terrain, écouter la prise de parole de Gabriel Attal hein, qui poursuit ses échanges dans cette exploitation d'Indre et Loire sur Europe 1 et CNews.
Norme après norme, arrêté préfectoral après arrêté préfectoral, ce qu'on peut simplifier. Ils ont commencé en Haute-Garonne il y a quelques jours. Ils ont déjà abrogé 4 arrêtés préfectoraux.
Attal, faites-le. Vraiment, faites-le. Parce que non, mais attends, le président Macron avait annoncé une simplification administrative, on l'attend encore, quoi. Ça, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de discours, mais peu d'actes. Et le malaise, je vais vous le dire, ça sera peut-être en forme de conclusion, mais le malaise, il est vraiment profond, très profond. On a une base qu'on a beaucoup de mal à tenir. On est sur un mouvement qui n'est pas le même que d'habitude. Et il faut vraiment l'avoir en conscience. Et on n'a pas... Alors le GNR c'est très bien, mais c'est juste, c'est la partie énergie d'Ashberg. Vous avez beaucoup de choses. Et alors vous héritez d'un dossier pas facile, vous venez juste d'arriver et pas de chance, c'est là que le moment que ça commence à exploser au niveau agricole. Mais ça fait longtemps que ça couvait. Là, on est arrivé au point et l'enterrez pas et traitez-le.
Je suis pas là pour remettre un couvercle.
Voilà.
Je suis pas là pour remettre
traitez-le
un couvercle.
Proprement. Traitez-le proprement. Parce que là, il y a vraiment un gros chantier et il y a une occasion à saisir et de le faire. Parce qu'on a vraiment besoin, nous, d'avancer sur ce plan-là. Quoi.
Et je vous dis, sur le sujet de la simplification, encore une fois, c'est pas des paroles, c'est des actes. Ouais. En Haute-Garonne, la réunion là, que le préfet fait avec vous mardi, ils en ont fait déjà 3 la semaine dernière. Il y a 4 arrêtés préfectoraux qui ont été abrogés. Et pour les agriculteurs, là-bas, les éleveurs, c'est très concret. Hein. C'est des normes, des règles qui sautent. J'ai demandé qu'il y ait ça dans tous les départements de France. Ça a démarré, ici c'est mardi, dans l'Inde je crois que c'est lundi. Voilà. Et donc ça va avancer. Et au niveau national, je ferai la même chose avec les représentants de vos syndicats. Et on a un projet de loi, s'il faut changer la loi sur certaines choses, qui arrive aussi. Donc... voilà, moi je...
Non mais on reste mobilisé, sachez-le. Le mot d'ordre, c'est dans le respect des biens de la personne. On espère qu'on va réussir à tenir ce mot d'ordre jusqu'au bout.
Par contre, on a toujours eu de la chance quand même ici, et je vous remercie. Je crois que, moi, depuis le début de mon mandat, et les collègues peuvent le dire, on a toujours pu rester en dialogue. On a toujours
changé, je souhaite que
ça
continue.
Mais
il y a plus de dialogue,
c'est
voilà,
à préciser. Non, mais c'est à préciser. Je crois qu'on a tous apprécié.
Et je vais vous dire, c'est ma méthode et c'est ma boussole. Je souriais en arrivant et ça vous a agacé. Pourquoi
naturellement.
Non, mais pourquoi. Et ça vous a agacé. Et ça vous a agacé pourquoi? Parce que, effectivement, il y a eu un débat sur le fait que je vienne ce matin, parce que une partie de mon équipe me disait t'as ta déclaration de politique générale mardi, il faut que tu restes dans ton bureau à la travailler. Etc. Et moi je leur ai dit non, je veux aller sur le terrain, même si c'est difficile, même si je me fais engueuler, même s'il y a beaucoup d'attentes et de la colère, parce que je veux pas perdre ce fil du dialogue. Donc quand vous m'avez dit heureusement que vous êtes venu, j'étais content que vous me le disiez, parce que vous voyez tous les gens en costume derrière qui préféraient que je restais dans mon bureau l'ont entendu. Voilà, moi je dialoguerai toujours sur le terrain, au niveau national, le dialogue il est permanent avec vos représentants, on va continuer à échanger. Moi mon souhait c'est d'avancer. Et je pense que la première chose pour avancer, c'est effectivement de changer d'état d'esprit. Ce que j'ai essayé de vous dire. Ensuite, vous attendez, et c'est normal, des actes concrets. J'en ai annoncé une première série vendredi, tout en disant c'est que le début. Et donc on va continuer, jour après jour, semaine après semaine, à avancer. Et moi, je veux vraiment...
Et continuer à soutenir nos structures, les chambres d'agriculture. Ça, c'est aussi un volet important on voit les budgets qui diminuent. Elles sont là pour mettre de l'huile dans les rouages.
Sur Europe 1 et sur CNews, le Premier ministre qui tente d'apaiser la colère des agriculteurs. On les a entendus l'interpeller. Beaucoup d'actes, beaucoup de paroles et peu d'actes, dit l'un d'entre eux. Mais un climat plutôt, il faut le dire, convivial pour l'accueil du Premier ministre qui énonce, Jean-Philippe Tanguy, sa méthode. On l'a entendu, pas dans le bureau, mais sur le terrain. Est-ce que la volonté politique aujourd'hui, le courage, j'allais dire, c'est d'aller sur le terrain, à la rencontre des Français, des agriculteurs, des paysans. Je vous en consterne, qu'est-ce qui se passe?
C'est-à-dire que c'est compliqué, parce que oui, c'est bien d'aller sur le terrain, mais vous savez, aller dans son bureau, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire travailler, quand même. Donc si c'est dans son bureau pour s'enfermer et ne rien faire, oui. Mais pour affronter la grande distribution, c'est pas en se déplaçant matin, midi et soir que vous allez l'affronter. Pour remettre les grandes multinationales de l'agroalimentaire à leur place, oui, il y a un moment, c'est elle qu'il faut aller affronter. Donc c'est très bien d'aller écouter les agriculteurs. Moi, je ne jette pas la pierre au Premier ministre. Mais attention, à force de se déplacer sur le terrain, les dossiers n'avancent pas. Voilà la réalité, les dossiers n'avancent pas. Et là, le dossier de l'agriculture, c'est pas juste quelques normes. Moi, je suis ravi que la hausse des taxes sur le gazole non routier soit supprimée. Je le demande avec Marine Le Pen, le groupe le demande. On a même fait le point de notre rentrée dans l'indifférent général, il faut bien le dire, en septembre dernier, tellement on savait que c'était important. Mais dans les bureaux, c'est aussi là qu'on règle les dossiers. Voilà. Et le général de Gaulle ou d'autres hommes ou femmes d'État, je parlais tout à l'heure d'Henri IV, Sully, qui avait dit pâturage et labourage sur les mamelles de la France, il travaillait dans son bureau aussi. Voilà. Donc il faut aussi arrêter dans la caricature de faire croire que régler les problèmes, c'est faire le tour. C'est Gabriel Attal est l'incarnation de la communication, comme M. Macron est l'incarnation du blabla qui pense être une action. Voilà. Parole ne fait pas. Voilà.
On va
c'est possible peut-être
parler.
Pour Dieu, je sais que M. Macron se prend pour Dieu, mais il n'y a que Dieu pour lequel le verbe est action.
On va continuer
pour les
en
humains
parler.
Comme M. Macron, l'action peut être après le verbe.
On arrive à la fin de l'émission, en tout cas sur Europe 1. Je vais remercier nos auditeurs, on va leur souhaiter un bon dimanche.